Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, cette fusillade qui a fait 9 morts en Allemagne près de Francfort.
Ce sont des bars à chicha qui ont été visés. Le principal suspect a été retrouvé mort chez lui. Tous les regards se tournent vers la mouvance d'extrême droite. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, cette opération incroyable en Grande-Bretagne. C'est une violoniste qui s'est fait opérer. Elle souffrait d'une tumeur au cerveau. Et pour ne pas risquer d'abîmer la zone cérébrale qui contrôle les mains, les chirurgiens lui ont demandé de jouer du violon pendant la intervention du grand spectacle Marie Billon.
C'était le concert le plus important de sa vie et pourtant Dagmar n'en a plus aucun souvenir. On l'entend ici jouer alors que les chirurgiens sont en train de lui retirer sa tumeur au cerveau. Une fois remise, elle a parlé à la BBC.
C'est moi qui ai proposé de jouer du violon pour qu'il s'assure qu'il ne touche pas à une partie de mon cerveau qui aurait modifié sur ma manière de jouer. J'ai notamment joué des gammes et des harmonies. Mais je me souviens que mon archet n'arrêtait pas de taper contre quelque chose ou quelqu'un et je me disais « Mais poussez-vous, il faut que je joue plus fort ».
Dagmar a ensuite pensé que peut-être elle tapait le chirurgien, mais il a confirmé que non.
La première partie, la plus douloureuse, on a dû la faire sous anesthésie générale, mais il a fallu que quand elle se réveille, elle soit dans une position qui lui permette de jouer immédiatement. On a aussi dû utiliser des draps de séparation spéciaux pour que tout reste stérile.
Et l'opération fut un succès, 90% de la tumeur a été retirée et Dagmar joue de son violon comme avant.
Récit RTL signé Marie Billon.
RTL Matin 8h02.
Comme promis, nous partons maintenant en Allemagne. Le pays est sous le choc après une fusillade qui a fait 9 morts près de Francfort.
Ce sont des bars à chicha qui ont été visés hier soir dans la ville d'Hanau. Aussitôt, une chasse à l'homme géante s'est engagée pour retrouver le tireur. Un suspect a finalement été découvert mort à son domicile. Selon la presse locale, il s'agit d'un Allemand muni d'un permis de chasse. A priori, il a agi seul. Blandine Milsan, vous êtes la correspondante d'RTL en Allemagne. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pas d'explication à ce stade, mais c'est la piste de l'extrême droite qui est privilégiée.
Oui, d'autant qu'une lettre de revendication et une vidéo ont été retrouvées. La police ne donne pas plus de détails pour le moment, mais selon Bild Zeitung, cette double fusillade est bien à mettre sur le compte de l'extrême droite. Bild affirme que l'auteur déclare dans cette lettre et dans cette vidéo que certains peuples doivent être éliminés puisqu'on ne peut plus les faire partir d'Allemagne. Donc c'est un discours clairement néo-nazi. Il faut savoir que vendredi dernier, une cellule d'extrême droite de 12 personnes avait été démantelée. Elle prévoyait des attaques contre des mosquées dans plusieurs villes du pays avec l'intention de créer un climat de guerre civile. Et à l'occasion de ces arrestations, vendredi, on a pris conscience du fait que l'extrême droite allemande pouvait commettre des attentats de façon organisée, même si, bien sûr, on ne sait pas s'il y a un lien direct ou indirect entre ces fusillades cette nuit et ces arrestations de vendredi dernier. Donc, deux fusillades vers 22h hier soir dans le centre-ville de Hanau, près de Francfort, contre deux bars à chicha. 9 personnes au total sont mortes dans ces attaques. Il y a également 5 blessés graves. L'auteur présumé des fusillades retrouvé à son domicile et une autre personne, donc, sont également cédé.
Blandine Milsan, direct d'Allemagne pour RTL. L'épidémie de coronavirus semble marquer le pas en Chine. Le bilan dépasse désormais les 2100 morts, mais les nouvelles contaminations sont au plus bas depuis près d'un mois. Un quatrième avion va rapatrier quelques dizaines de Français d'ici demain. Ils devraient être mis en quarantaine dans un centre de vacances du Calvados. Par ailleurs, à cause de l'épidémie, Air France KLM fait savoir ce matin que le manque à gagner s'élève à 150 ou 200 millions d'euros entre février et avril. La compagnie a dû suspendre ses vols vers la Chine.
RTL Matin, 8h04.
Arithmétique bruxelloise. 28-1 égale 27. Les dirigeants européens se retrouvent cet après-midi pour la première fois depuis le Brexit.
Retrouvailles pour un sommet extraordinaire sur le prochain budget pluriannuel. Il faut trouver de quoi financer les projets européens pour la période 2021-2027. Les négociations s'annoncent rudes. Elles pourraient durer plus de 24 heures. C'est que le Brexit complique tout. Les Britanniques ne versent plus leur part et l'enveloppe globale risque de s'effondrer au détriment, par exemple, de la politique agricole commune ou encore de la sécurité.
Alors, la fameuse PAC est-elle sacrifiée après le Brexit? Eh bien, c'est la question du 8h.
Avec vous, Bénédicte Tassard, bonjour.
Bonjour.
Les agriculteurs vont-ils trinquer à ce sommet?
Pour l'instant, avec le document de travail qui sera sur la table des négociations des 27 cet après-midi, oui, le projet de budget prévoit une baisse des dotations agricoles de 14% par rapport à aujourd'hui, soit 53 milliards d'euros en moins dans l'enveloppe de la PAC. Et ce qu'on redoute du côté français, c'est surtout un rabot des aides directes, l'argent qui va dans la poche des paysans. Aujourd'hui, les agriculteurs français touchent un peu plus de 7 milliards d'euros. Ajoutez à cela un demi-milliard budgété pour la dernière crise du lait, par exemple, ou pour faire face à la descente aux enfers des volaillers bretons.
Et la France peut-elle retourner la situation ?
À l'Élysée, on en fait une priorité. D'autant plus qu'on va demander aux agriculteurs d'être plus écolo à l'avenir. Une transition verte qui va coûter cher. Pour la France, il faut au moins que le budget de la PAC soit stabilisé.
La question de 8 heures avec Bénédicte Tassard.
Airbus va supprimer plus de 2300 postes en Europe, dont 400 en France. C'est 5% des effectifs français. Alors pas dans la branche avion de ligne qui a enregistré des commandes records l'an dernier, mais dans les activités spatiales et de défense. Les opposants à la réforme des retraites remettent le couvert aujourd'hui. Ce jeudi est une nouvelle journée de mobilisation nationale, la 10e depuis début décembre. Des manifestations sont prévues partout en France. À Paris, le cortège partira à 13h30 de Montparnasse vers la place d'Italie. On attend quelques perturbations dans les transports franciliens, sur les RER B et D et sur les lignes de la banlieue nord. Mais bon, rien de comparable avec la longue grève du début du mouvement. Une grève qui vous a peut-être donné le goût de la bicyclette. Et si vous avez décidé d'investir dans un vélo électrique, sachez que vous avez droit à un sérieux coup de pouce financier. Cette aide est disponible à partir d'aujourd'hui, Éric Vanier.
Il faut habiter en région parisienne et avoir plus de 18 ans. Après, peu importe le montant de vos revenus, tout le monde a droit à cette aide à condition de présenter une facture en français et en euros postérieure au 1er décembre, prouvant l'achat d'un vélo à assistance électrique homologué. La région vous remboursera la moitié de son prix dans la limite de 500 euros. Si vous avez acheté un vélo à 800 euros, vous toucherez donc 400 euros. S'il vous a coûté 1200 euros, le remboursement sera plafonné à 500 euros. Vous pouvez faire figurer sur la facture les frais d'acquisition d'un casque, d'un antivol, ou d'un panier. Ils seront pris en compte. Les démarches se font en ligne via le site d'Île-de-France Mobilité en fournissant notamment un certificat de conformité du vélo, un justificatif de domicile et un RIB, car le remboursement se fera par virement bancaire. Plus, j'allais oublier, une signature vous engageant à ne pas revendre votre vélo subventionné avant une période de 3 ans.
C'est assez logique.
Précision utile, explication complète signée Éric Vanier. Près d'une semaine après le début de l'affaire Griveaux, c'est Rachida Dati qui tire les marrons du feu à Paris. Selon un sondage Odoxa CGI pour le Figaro, la candidate LR au municipal double pour la première fois Anne Hidalgo avec 25% d'intention de vote contre 23% pour la socialiste. Agnès Buzyn, fraîchement investie, recueille 17% d'intention de vote, à peu près autant que Benjamin Griveaux avant elle. Les Verts sont à 14% et Cédric Villani à 7% en baisse de 3 points.
RTL Matin 8h07.
Nous partons maintenant à Marseille avec ce qui ressemble fort à un scandale sanitaire.
Pendant des années, 9000 habitants des quartiers nord ont arrosé leur potager ou rempli leur piscine avec une eau polluée. Non loin de là, il y a une usine de traitement des métaux. Les eaux souterraines sont chargées au chrome 6 qui est un produit cancérogène. Alors dès 2013, la préfecture a donné l'alerte, mais ce n'est que 6 ans plus tard, en 2019, que la mairie a interdit l'usage de l'eau des puits. Le temps, paraît-il, d'obtenir des analyses. À Marseille pour RTL, Étienne Baudu.
Depuis le début des années 2000, Christophe se doutait bien que l'eau de son puits n'était pas de la plus grande pureté. Sa couleur devenue jaunâtre ne l'inspirait guère. Mais les analyses à l'époque n'avaient rien donné. Il faut dire qu'elles ne ciblaient pas le chrome 6, cette substance cancérigène.
On a continué pendant quelques années à se baigner. Après, on est passé sur une eau de la ville parce que la couleur ne nous plaisait pas. Par contre, on a continué à arroser le jardin jusqu'à l'année passée. C'était des raisins, c'était de la menthe, c'était des légumes, c'était un peu de tout qu'on a mangé. Ma fille aimait manger la menthe, la cueillir comme ça. Du coup, elle a mangé des fruits arrosés par cette eau pendant des années. D'où une inquiétude importante.
Alors, la pollution, elle, n'a été détectée qu'en 2013, une importante pollution. Les services de la Direction régionale de l'environnement ont imposé des réparations et l'entreprise a même été condamnée à une amende. Aujourd'hui, il semblerait que quelques puits seulement soient pollués. Mais au-delà, là où le bât blesse pour l'association Cap au Nord, c'est l'alerte très tardive de la part de la ville en mars 2019, son président Charles Chanu.
La préfecture a fait son job de suite, ils ont trouvé la source, ils l'ont arrêté, ils ont mis le site en surveillance et ils ont écrit à la mairie en disant « il faut que vous publiez un arrêté d'interdiction d'usage de l'eau souterraine ». Ben, la mairie a mis 5 ans pour publier cet arrêté. C'est une carence. Je veux dire, c'est l'attitude générale qu'elle a vis-à-vis des quartiers nord.
Et l'association Cap au Nord, tout comme Christophe, demande une enquête épidémiologique pour savoir quelles peuvent être les conséquences sur la santé des habitants concernés.
Le reportage RTL d'Étienne Baudu à Marseille. Une nouvelle vidéo choc de l'association L214. Elle diffuse ce matin des images filmées dans un abattoir de veaux Label Rouge, l'un des plus gros de France en Dordogne. On y voit des animaux égorgés alors qu'ils sont encore conscients. L214 demande que l'étourdissement soit obligatoire. L'association porte plainte contre l'abattoir. Elle demande aussi sa fermeture d'urgence. On en vient à cette vaste affaire de corruption au permis de conduire à Bayonne. Des fonctionnaires de la sous-préfecture redonnaient des points ou carrément un nouveau permis en échange de quelques cadeaux.
Ah oui.
Trois personnes ont été mises en examen. Et ce n'est peut-être qu'un début, Denis Grandjou.
Oui, le parquet de Bayonne en charge de ce dossier tentaculaire, pour reprendre le terme de l'enquêteur, évoque un vaste mécanisme de corruption qui durait depuis une dizaine d'années. Il reposait sur des restitutions de points perdus du permis de conduire, des impressions de permis tout neuf contre des maillots de rugby, dédicacés ou pas, ou encore des places lors de matchs de rugby. Les enquêteurs avancent le chiffre de 47 protagonistes dans cette affaire, dont d'anciens internationaux de rugby, anciens joueurs de rugby également de l'Aviron Bayonnais ou du Biarritz Olympique. Ce dernier s'est d'ailleurs constitué partie civile hier. On évoque aussi des hauts gradés de la police et des chefs d'entreprise de la région. L'avocat de l'homme par qui le scandale a éclaté au grand jour insiste sur le fait que son client n'avait pas pris la mesure délictuelle de ce qu'il faisait et qu'il le faisait simplement pour rendre service, même si parfois des cadeaux symboliques lui étaient remis en échange. La police judiciaire en charge de cette affaire doit procéder à de nombreux interrogatoires d'ici les prochains jours et on peut s'attendre à de nouvelles mises en examen.
Récit RTL signé Denis Grandjouf.
Petite histoire du jour pour finir.
C'est l'histoire de l'épicier généreux dans sa petite supérette dans le Bronx. On a le droit de se servir gratuitement dans les rayons pendant 5 secondes, pas très long, hein, 5 secondes. Il y a quand même une condition, Yves, il faut pour cela répondre à une question de calcul mental. Oui. 7 fois 7, 49, hop, vous avez gagné votre dîner par exemple. Alors les questions ne sont pas trop difficiles, mieux vaut quand même connaître ces tables de multiplication. Mm-hmm. C'est en fait un moyen déguisé de donner aux plus démunis sans en avoir l'air. Des vidéos ont été mises en ligne et depuis, notre épicier yéménite est devenu une star.
Ben oui.
300 000 followers sur Instagram, il y a la queue devant le magasin. Comme quoi, vous voyez, un bienfait n'est jamais perdu, paraît-il.
Mais absolument. En tout cas, il est très futé, cet épicier.